RCF. Bonjour, nous nous retrouvons avec Agora Défense pour notre émission mensuelle consacrée à la vie militaire à Bourges et dans le Cher. Nous poursuivons l'histoire du 95e régiment d'infanterie à partir de 1815 et jusqu'en 1919. Comme guide, notre ami Jean-Pierre André, qui nous arrive la musette et l'havresac remplis de l'histoire de son cher 95e régiment d'infanterie. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bernard.
Première question un peu malicieuse, auquel tu vas répondre avec beaucoup d'humour, je suppose. Comment se porte le 95e régiment d'infanterie après Waterloo ?
Mal, Bernard, très mal. Tellement mal qu'il a péri. Après Waterloo, le 95e RI se replie avec l'armée de la Loire au sud de la Loire, dans le département du Cher et de l'Indre, où cette armée est dissoute sous l'autorité de MacDonald. Pour la petite histoire, qui a passé toute sa petite son enfance à Sancerre.
Oui.
Et le 95e RI est dissous, n'existe plus. En 1820, est recréé un régiment qu'on a un petit peu de nature un peu différente, le 20e régiment d'infanterie légère, d'accord, qui reprend les traditions, oui, du 95e RI. Aussitôt, enfin pas aussitôt, mais ce 20e léger, on l'envoie en 1832 guerroyer en Hollande, oui, et en Belgique. Mmh. Et notamment, il participe au siège d'Anvers, où il se couvre de gloire, à tel point que le nom d'Anvers figurera sur son drapeau, d'accord, sur le drapeau du 95e. Oui, oui. On arrive au Second Empire.
Justement, le 95e régiment d'infanterie participe-t-il à la guerre de 1870 ?
Oui. Bien sûr, oui, il participe à la guerre de 70. Un petit mot quand même avant.
Oui.
Et avant la guerre de 70, il a participé aux campagnes de Crimée.
Ah oui.
Donc il s'est battu à Sébastopol. Là aussi, un nom mentionné sur son drapeau. Il participe à la campagne du Mexique, d'où il s'illustre aussi à la bataille de Puebla, nom gravé sur son drapeau. Revenu en France, il prend part à la campagne de 1870. Et là, sans avoir livré de bataille extraordinaire, il se trouve renfermé dans Metz, obligé de rendre les armes lors de la capitulation de Sedan.
D'accord.
Donc, il est dissous de fait.
D'accord, ok. J'aimerais aussi savoir, Jean-Pierre, pouvez-vous me préciser quand, enfin, le 95e régiment d'infanterie s'installe définitivement à Bourges ? Et j'aimerais savoir, pour nos auditeurs, où sont les casernements du 95e régiment d'infanterie ?
Alors, rapidement, en 1871, il est reconstitué à Marseille. En 1872, il arrive à Limoges. En 1873, il est au camp d'Avord. Régiment, à l'époque, à 4 bataillons. En 1974, il est intégré dans la nouvelle réorganisation des armées, à la 31e brigade, avec 85e RI de Cône, au sein de la 16e division et du 8e corps d'armée. En 1875, il arrive à Bourges, 4 bataillons, et il s'installe au centre administratif Condé, à la caserne Vielle-Castel, et dans des baraquements qui ont été construits sur le champ de foire de Serrocourt, là où maintenant est le stade. Voilà. Un bataillon est en permanence à Avord.
Le Berry se raconte, Bernard Dupéra.
Vous êtes à l'écoute de RCF, Le Berry se raconte. Aujourd'hui, notre invité, Jean-Pierre André, qui nous parle du 95e régiment d'infanterie. Pour beaucoup d'entre nous, mon cher Jean-Pierre, le nom du 95e régiment d'infanterie reste profondément attaché à la Grande Guerre, celle de 14-18. Pouvez-vous simplement évoquer quelques grands moments de ce régiment pendant la Première Guerre mondiale ?
Oui, je tiens à évoquer le mois d'août 14. C'est une époque qui n'est pas très bien connue et c'est certainement une des plus meurtrières de la guerre pour notre régiment et pour bien d'autres d'ailleurs. En août 14, le 95e RI, 3300 hommes, par trois trains, embarquent et de Bourges et arrive à Châtel-Nomexy, le long de la Moselle, si je me souviens bien, ou de la Meuse. Ouh, j'ai un trou de mémoire.
Peu importe.
Presque aussitôt, il entame, avec la 31e brigade, une marche en direction de Sarrebourg. La première étape fait 50 km, entre 45 et 50 km, et certaines unités ont fait 65 km, avec le barda, une charge d'environ 25 kg avec le fusil, les munitions. C'est quelque chose d'épouvantable. Les soldats ont fini par jeter leurs sacs dans le fossé, ne gardant que leurs fusils et se traînant dans les derniers kilomètres. Heureusement, le train d'équipage qui suivait le régiment a ramassé tous les sacs et a pu les redonner au soir et au matin aux soldats. C'était la première étape. Par petites étapes d'une trentaine de kilomètres, le régiment passe la frontière de l'Alsace annexée, prend la petite ville de Blamont d'assaut, puis, sans trop de résistance, les armements reculent au fur et à mesure de l'avancée des troupes françaises. On arrive à Sarrebourg autour du 17-18 août 1914. On rentre dans Sarrebourg sans trop de problèmes, quelques tirs d'artillerie lourde allemande, mais finalement ça se passe assez bien. Le 19 août, ordre est donné à la 31e brigade, de passer à l'assaut des fortifications allemandes qui sont derrière Sarrebourg, autour de la petite ville de Redin. Et là, c'est le guet-apens. Derrière Redin, l'armée allemande a massé des troupes très importantes, une artillerie lourde puissante, hors de portée de nos 75, qui se font écraser. Alors, les 75, c'est l'artillerie du 1er régiment d'artillerie de Bourges, et du 38e régiment d'artillerie de Bourges, deux régiments de Berrichon, si je peux dire, qui sont écrasés parce que leurs armes sont hors de portée des armes lourdes allemandes. Les troupes françaises qui se lancent à l'assaut comme sous Napoléon, les compagnies les unes à côté des autres, en ligne, les officiers devant, sabre d'une main, pistolet de l'autre, les jeunes officiers ayant revêtu les gants blancs et pour certains le cassoir, les jeunes Saint-Cyriens. Et c'est un massacre épouvantable. Les Allemands les attendent avec de nombreuses mitrailleuses, l'artillerie lourde. Et dans le rapport, le journal des marches d'opération de la 31e brigade, j'ai trouvé une expression très peu militaire de l'officier qui rédige les opérations du jour, qui explique que le champ entre Sarrebourg et Redin est un champ de mort. Ce n'est pas un terme très militaire et qui prouve bien l'émotion qu'a ressenti même l'état-major de...
Est-ce qu'on a une idée un peu du pourcentage de soldats qui ont été tués dans ces quelques jours-là ?
Entre la bataille de Sarrebourg, la bataille de Blamont, puis la bataille de Matexé autour du 24-25 août après, quand l'armée a reculé en direction de la Mortagne. On estime que le régiment a perdu plus du tiers de ses effectifs, soit en gros 1300-1400 hommes.
1300 hommes tués, blessés ou portés disparus ?
Oui, au total.
C'est énorme.
Ah, c'est énorme. C'est énorme. Il a fallu, le 27 août, recompléter les effectifs par 1000 hommes. 1000 hommes venus du dépôt de Bourges, qui sont venus boucher les trous, et ça ne complétait pas l'effectif normal. On a simplement paré au plus pressé. Je crois que c'est le 23 août, si ma mémoire est bonne, 23-24 août, on a renommé des cadres. Il y avait plus d'officiers, très peu d'officiers, tous les sous-officiers étaient disparus.
Je crois qu'il faut bien faire comprendre à nos auditeurs que, en fait, le mois d'août, août-septembre 1914, ça a été là où les pertes françaises ont été les plus importantes, très plus importantes. Oui. Alors ça, c'est un épisode très peu connu dans les livres d'histoire. On parle de la guerre du mouvement, mais on n'entre pas trop dans le détail.
On parle de Verdun.
On parle de Verdun. Alors justement, Est-ce que vous pourriez me parler brièvement, parce que je vois que le temps malheureusement tourne, d'un autre épisode, celui de Verdun et en particulier du rôle du 95e Herri à Douaumont.
Les Allemands ont attaqué Verdun.
21 février.
21 février, voilà. Le 24 février, le 95e Herri est alerté et arrive après une marche d'une cinquantaine de kilomètres sans manger. L'intendance n'avait pas réussi à suivre. Devant Douaumont, pour bloquer l'avance des troupes allemandes qui étaient des troupes d'élite. Et pendant deux jours, sous un bombardement et des assauts absolument terribles, le 95e Herri s'est ancré, a résisté et est ressorti absolument décimé de cette bataille. À partir de ce jour, on l'a appelé le bouclier de la France. C'est, je crois, le titre qui lui avait été donné au cours d'une allocution d'un parlementaire à la Chambre des députés.
Exactement. Merci Jean-Pierre. Bon, c'est passionnant, vous vous rendez compte, on n'a fait que deux événements. On a fait août 14 et on a fait février 1916 Douaumont. Je voudrais vous poser une autre question. Et le régiment, entre les deux guerres, qu'est-ce qui devient ?
Entre les deux guerres, il est à Bourges. C'est un régiment qui est très connu, qui a beaucoup d'aura, il participe à la vie culturelle, à la vie sociale, puisque c'est quand même beaucoup d'officiers, de sous-officiers qui apportent de l'élan, la vie culturelle bien sûr. Il y a une musique extraordinaire, ouais. Animée par un musicien de très grand talent, Jules Semler-Collery.
Ah oui, pareil.
Et qui a fini sa carrière comme chef de la musique de la flotte, enfin bon, et compositeur. Bon. Et il reste à Bourges avec un bataillon à Cônes, où il remplaçait le 85e Herri qui avait été dissous, et des troupes en permanence sur le camp d'Avord.
Merci Jean-Pierre pour cette histoire qui nous retient le souffle. Nous nous sommes arrêtés en 1919. Il nous faudra envisager la poursuite de l'histoire du 95e Régiment d'infanterie dans la Deuxième Guerre mondiale et après. Mais vous, chers auditeurs, qui vous êtes dans une attente trop fébrile, il suffit tout simplement de reprendre l'ouvrage publié par Agora Défense, La vie militaire à Bourges et dans le Cher, aux éditions Leiner. Merci Jean-Pierre et à très bientôt.
Merci Bernard.